enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais lire avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 5. Qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Jésus a payé le prix pour vous et pour moi. À la croix, il va expier ma faute et votre faute, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. À la croix, il nous lavera de nos péchés. La libération de nos péchés et le pardon qu'il engendre engendrera également la guérison dans nos âmes et dans nos cœurs. Et comme conséquence de cette guérison intérieure, il accompagnera l'œuvre de la croix comme une œuvre parfaite en permettant également que par sa puissance découlant de la croix, les malades reçoivent guérison dans leur corps. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 17, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Conséquence de ce qu'il a accompli à la croix, non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, non seulement nous obtenons le pardon, mais nous recevons la guérison dans nos corps. » Bien-aimé, traiter le thème de la guérison divine est quelque chose d'extrêmement délicat. Et c'est pourquoi, eh bien, je veux le faire avec d'abord une pensée à tous ceux qui parmi nous sont malades. Ceux qui le sont peut-être depuis longtemps, voire depuis des années. Ceux qui sont nés en ayant une maladie. Je voudrais d'abord penser à vous et vous prier de croire à toute ma compassion par rapport à ce que vous vivez. Mais j'aimerais dire que je crois qu'il y a une espérance pour chacun de vous dans la parole de Dieu. Le sujet est vaste, je ne prétends pas tout comprendre ni tout expliquer. La Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Tout homme, toute femme, croyant ou non croyant, à un moment donné ou à un autre de sa vie, peut être confronté à la maladie. Ce thème concerne chacun d'entre nous, même vous qui êtes en bonne santé, parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Nous ne savons pas ce qui peut encore arriver. Et c'est pourquoi je demanderai l'attention de chacun et de chacune. Nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui avons donné notre vie à celui qui est le seul Seigneur, nous qui avons reçu de la part de l'Éternel sa grâce, nous savons qu'en lui nous avons une espérance. Pourquoi ? Sa parole dit la chose suivante dans Exode 15, verset 26. Si vraiment tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, c'est moi le Seigneur, Yahweh. Qui te guérit. Il est Yahvé Raphé, celui qui nous guérit. En introduction, je voudrais tout simplement affirmer avec beaucoup de conviction que guérison et médecine ne s'opposent pas. Voyez-vous, le grand penseur, philosophe et savant Pascal disait « Il y a deux excès, exclure la raison et n'admettre que la raison. » Lorsque Jésus guérira les 10 lépreux, il les enverra avant même qu'ils aient guéri, voir le sacrificateur, car seul lui avait été établi comme pouvant diagnostiquer la guérison d'une lèpre. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en route, ils furent guéris. Jésus se soumettait à l'époque à celui qui seul pouvait déclarer la guérison du malade. Voyez-vous, du temps de Jésus, évidemment, eh bien, il connaissait et les médecins et la médecine. Il dira d'ailleurs lui-même cette fameuse phrase dans Matthieu 9, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Jésus à aucun moment ne dit à un homme « Ne va pas voir un médecin » ou à aucun moment dans l'Écriture, vous voyez Jésus dire « Arrête un traitement ». Cependant, il les guérissait tous. Conséquence, ils n'avaient plus besoin forcément d'aller. Ça, c'était l'une des conséquences. Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul parle, il avait dans son équipe un homme qu'il apprécie particulièrement, c'est Luc. Et il parlera de Luc dans ces termes-là, écoutez bien, dans Colossiens 4, 14. « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Luc était apprécié de l'apôtre Paul, il est d'ailleurs celui qui écrira l'évangile qui porte son nom et qui écrira également le livre des Actes des apôtres. Un médecin que Dieu utilisera pour être également un témoin de ce qui s'est passé. Bien-aimé, trop souvent l'on a opposé foi et médecine en laissant croire que aller consulter un médecin était le signe d'un manque de foi. Frères et sœurs, la question de fond n'est pas « dois-je me faire soigner par un médecin ?» ou « ne dois-je pas me faire soigner par un médecin ?» car là, je dirais que la question ne se pose pas. Foi et médecine ne s'opposent absolument pas. Ce qui va être déterminant, c'est par contre « où ai-je mis ma confiance ?» Et c'est ça la question de base. La question de base, c'est « où ai-je mis ma confiance ?» Je bénis Dieu pour tous les médecins. Je remercie le Seigneur pour toutes les infirmières qui très souvent font un travail duquel ils n'ont pas toujours forcément une grande reconnaissance. Je veux vraiment encourager au milieu de nous tout le personnel médical qui jour après jour, semaine après semaine et mois après mois s'occupe de souffrants. J'aimerais vraiment vous encourager de tout cœur et vous dire que le Seigneur vous bénit. Alors la question donc est plutôt en qui ai-je mis ma confiance ? Voyez-vous, Jérémie dit « Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain. Si ma confiance repose uniquement dans celui qui me soigne, si ma confiance ne repose que sur le traitement, si ma confiance et mon espérance n'est que dans la fameuse piqûre qu'on va m'administrer, alors là je suis en danger. Cependant, si ma confiance est en Dieu, si ma foi est en Dieu, alors quel que soit le moyen qu'il utilisera, je me réjouis. Je suis conscient, si ma foi et ma confiance reposent en Christ, qu'il peut me guérir de manière tout à fait surnaturelle, par une parole de connaissance, comme c'est déjà arrivé. J'ai d'ailleurs là un témoignage que j'aimerais vous lire rapidement. Cela vous encouragera également. Je lis « Il y a 3 ans ». Le Seigneur m'a complètement libéré de douleurs arthrosiques dans mon dos, dans la nuque et d'une tendinite chronique dans le bras par une parole de connaissance du pasteur. J'en avais témoigné devant l'église, mais en voyant ma mère de 80 ans déformée par l'arthrose et souffrant horriblement, je restais parfois interrogative. Suis-je guéri de l'arthrose ou simplement libéré de la douleur ? Cette question est revenue à l'ordre du jour il y a 1 an. J'ai dû subir une intervention chirurgicale au pied. Après l'opération, je continuais à avoir de fortes douleurs aux pieds, alors que le but de l'opération était de les éliminer. Lorsque j'ai interrogé le chirurgien, il m'a fait une réponse sans ambiguïté. « Vous aviez de l'arthrose là-dedans et ça, je ne peux pas vous l'enlever. » Un mardi soir, début décembre, Samuel donne à une dame qui venait pour la première fois une parole de connaissance dans laquelle Jésus lui disait qu'il la guérissait de l'arthrose. À ce moment précis, Samuel ajoute très vite « Et il y a une sœur qui dit, « Et moi, Seigneur, qui viens depuis des années, me guéris-tu aussi ? » Suis cette parole merveilleuse. Oui, je te guéris aussi de l'arthrose. Et au-delà, c'est d'un véritable lien de maladie, d'un lien de génération que je te délivre. La parole de connaissance a été aussi précise et rapide que mes pensées. C'est comme si mes pensées secrètes venaient de m'être dérobées. Mes douleurs aux pieds qui étaient présentes ce soir-là, au point que j'avais dû quitter ma chaussure pendant la louange, m'ont quitté à l'instant même pour ne jamais revenir. Notre Dieu est merveilleux, il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous ne l'exprimions. Et je continue, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à donner ce témoignage parce que je pensais que cela m'appartenait, que je n'avais pas à dévoiler mes pensées secrètes, mais je n'ai eu la paix que lorsque je me suis décidé. Et le Seigneur m'a clairement montré que les paroles de connaissance, même si elles nous sont destinées, ne nous appartenaient pas, mais qu'elles devaient servir pour l'édification de l'Église et aussi de témoignage pour les incroyants. Que le nom du Seigneur soit béni. Celui qui place sa confiance en Dieu a donc conscience que Dieu peut le guérir de manière surnaturelle, comme ma sœur. Peut le guérir suite à l'imposition des mains, à une onction d'huile, peut le guérir pendant la prédication, peut le guérir alors qu'il vit une délivrance, tout simplement parce que sa maladie serait rattachée, eh bien, à un esprit qui est là. Mais celui qui a placé sa confiance en l'Éternel sait également que l'Éternel peut utiliser des hommes pour lui venir en aide. Ce qui importe en finalité, c'est que la gloire et la gloire seule reviennent à Jésus-Christ. Lorsque le papa Jean fut brûlé au troisième degré, il fut hospitalisé. Les infirmières très dévouées, les médecins constatant sa brûlure jusqu'au troisième degré, eh bien vont évidemment essayer de faire leur possible pour le soulager, mais ils ne pouvaient pas lui ôter la douleur. Celui qui lui a instantanément ôté la souffrance d'une seconde à l'autre, c'est le Seigneur dans son lit d'hôpital pendant qu'il priait. Mais ceux qui par la suite ont enlevé les peaux mortes et ceux qui ont mis du baume sur ses plaies, c'était les infirmières qui étaient là autour. Dieu a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire. Mais ce qu'elle pouvait faire, il l'a laissé faire. Lorsque ma sœur Michèle était atteinte de son cancer, Michèle sera opérée 2 fois. Le cancer était à un tel stade que les médecins, bien sûr, n'ont plus su quelle suite donner. Elle avait eu toutes les chimiothérapies, radiothérapies nécessaires. Cependant, le cancer continuait à évoluer et à évoluer de manière très rapide. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus la guérira. Le résultat, c'est que toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne pourrait avoir le doute, oui, mais si elle avait été soignée, peut-être que ça serait aussi fait. Non, elle a été soignée jusqu'au bout. Et c'est là, quand nous étions au bout du bout, que le Seigneur l'a guérie. La foi, donc, consiste à faire confiance en Dieu, quel que soit le moyen qu'il emploiera pour me secourir. Alors, de ce fait, il n'est question, ou jamais question, de dire à une personne, arrête ton traitement. Nous sommes individuels. Vous ne pouvez pas dire ce que j'ai à faire. Et si un jour j'avais une conviction personnelle que je dois faire ceci ou cela, aucun d'entre vous ne pourrait me dire « ne le fais pas ». C'est une conviction qui m'est personnelle. Et je crois qu'il est important de réaliser que dans la guérison divine, nous sommes devant des choix personnels devant lesquels personne ne peut se mêler. Un jour, une dame vient me voir, me dit « frère, ça va de plus en plus mal ». Je dis, mais pourquoi? Elle dit, j'ai arrêté mon traitement. Je dis, mais qui t'a dit d'arrêter un traitement? Mais un frère m'a dit, prends-le par la foi, arrête tout. J'ai dit, mais t'avais la conviction, toi? Elle dit, ah non. Non, mais comme lui, il l'a dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ne faites jamais quelque chose parce que l'autre l'a dit. C'est pas lui qui a votre problème, c'est vous. Amen. Moi, j'aime ce texte. Jésus envoie les lépreux vers le sacrificateur. Il leur dit pas, ok, c'est bon les gars, c'est fini. Il les envoie vers celui qui avait autorité à l'époque de diagnostiquer et de prononcer la guérison. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes engagés dans le milieu médical qui savent que c'est le Seigneur qui guérit. Ambroise Paré, chirurgien français, disait, le médecin soigne, mais Dieu guérit. Amen. Et Dieu guérit comme il veut, comme il l'entend, quand il veut, où il veut. Je voudrais aller un peu plus loin avec vous. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, nous considérons la parole, nous lisons que Jésus guérissait les malades. Nous lisons également que Jésus, eh bien, envoyait les siens guérir les malades. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous l'avons chanté, « Je suis celui qui te guérit » et nous en avons la conviction. Cependant, nous devons être tous confrontés à la même question, pourquoi alors y a-t-il encore des malades ? Foi en la guérison divine et maladie sont-elles contradictoires ou peuvent-elles être à un moment donné même complémentaires ? Un chrétien peut-il être malade ? Point d'interrogation. C'est tout cela que je voudrais voir avec vous. Et pour bien aborder le sujet, il me semble qu'il faut bien comprendre le but et l'objectif de la guérison et parfois même le but et l'objectif de la souffrance. Alors, quelle est la définition de la santé et de la maladie ? J'ai ouvert le dictionnaire Hachette. Et j'ai simplement regardé santé. Et voilà ce qu'il est dit. État de l'être vivant, et particulièrement de l'être humain, chez lequel le fonctionnement de tous les organes est harmonieux et régulier. Fonctionnement harmonieux du corps et de l'esprit, ça c'est être en santé. Maintenant, maladie, altération de la santé, dysfonctionnement du corps et de l'esprit. J'aimerais vous dire que Dieu nous propose une vie de santé. Est-ce que vous le croyez ? Mais je vais vous mettre à contribution. Dieu vous propose une vie de santé. Proverbe 4, versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Dieu veut que nous vivions une vie en bonne santé. Mais pour cela, il nous donne également des recommandations dans sa parole. Et si nous observons sa parole et ses recommandations, nous en avons également le bénéfice. Cependant, je dois me rendre compte que très souvent, il me semble que l'imposition des mains et la prière pour les malades, c'est un peu comme les pompiers qui éteignent le feu. C'est-à-dire que très souvent, on n'a pas le comportement nécessaire pour que nous soyons en bonne santé. Et quand ça va mal, vite frère, prie pour moi. Je crois que la guérison divine passe également par une forme d'éducation. Et je crois que la bonne santé est accompagnée d'une bonne éducation. Et la parole de Dieu nous donne cette bonne éducation. Malgré cela, je dois dire que certaines personnes qui ont fait tous les excès possibles et impossibles, lorsque j'ai prié pour elles, en particulier dans les campagnes d'évangélisation, étaient guéries et souvent instantanément. Alors se pose à nous une question. Si les non-croyants sont guéris aussi vite, est-ce que vous n'avez jamais remarqué ? Quelqu'un vient pour la première fois, il est guéri. Je voudrais y répondre de manière peut-être très restreinte. Il est nécessaire de distinguer dans la guérison deux choses. La guérison qui n'est que l'effet de la grâce et la guérison dans l'alliance que nous avons faite avec Jésus-Christ. Lorsque c'est l'effet de la grâce, remarquez, dans l'évangélisation par exemple, j'ai vu des malades être guéris de manière surprenante. Mais manifestement, Dieu dans sa grâce, leur manifestant son amour, sa compassion, sa miséricorde, se révélant à eux au travers du royaume qui est accompagné de signes, de miracles et de prodiges, les guérissait. Ça, c'est la grâce. Maintenant, frères et sœurs, la guérison des croyants passe souvent un autre chemin. Pourquoi ? Parce que Dieu utilise parfois nos situations pour nous emmener à la perfection. Non pas qu'il s'agisse de sacraliser la maladie en disant que celui qui est malade le porte pour le Seigneur. Absolument pas. Jamais Jésus n'a dit une chose pareille. Jamais la Bible ne dit une chose pareille. Lorsqu'il est parti parler de la participation aux souffrances de Christ, il ne s'agit pas d'une maladie que vous portez. Mais dans l'Alliance, avant de nous guérir, le Seigneur utilise parfois la maladie pour nous parler, pour nous amener à un réel changement de comportement afin de nous sanctifier. Et c'est pourquoi la guérison divine au milieu du peuple de Dieu ne lui est pas toujours accordée comme elle est accordée avec facilité aux païens. Est-ce que vous saisissez cela ? Vous savez, dans une alliance, il y a toujours des privilèges, mais il y a des devoirs. Et Dieu utilise parfois cela pour nous amener à réaliser quels sont également nos devoirs à son égard. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut que nous menions une vie de santé. Quelqu'un disait, il vaut mieux prévenir que guérir, d'accord ? Il me semble que nous devons apprendre à mener une vie de santé, c'est-à-dire apprendre les règles spirituelles, mais également les règles naturelles. Dieu a créé le monde avec des règles. Il y a des lois chimiques, il y a toutes sortes de lois qui sont là. Lorsque nous enfreignons ces lois, eh bien très souvent vont venir des conséquences sur nos vies. Mon frère, ma sœur, il y a des lois qu'il te faut respecter. Ce que j'aimerais faire, c'est nous responsabiliser également dans la manière dont nous menons notre corps et la bonne santé que nous lui assurons ou alors que nous ne lui assurons plus. Mon frère, ma sœur, tu as une responsabilité. Je vais prendre quelques exemples. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Dans le livre du Lévitique, il y a des lois, des règles sur l'impureté, sur ceci, sur cela. Mais voilà des constats qui ont été faits. Je lis par exemple un texte du Lévitique, chapitre 18, verset 19. « Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son indisposition menstruelle qui la rend impure pour découvrir sa nudité. » Chapitre 15, verset 24. « Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. » Des scientifiques ont constaté que dans des cas de stérilité, non pas tous les cas de stérilité, là aussi, remettez bien ce que je dis à sa juste place. Eh bien, on a découvert que ces couples-là avaient des relations sexuelles pendant la période d'indisposition de la femme. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La femme, à ce moment-là, a commencé à produire des anticorps localement, et là, je me suis adressé à un médecin pour savoir cela, bien sûr, au niveau du vagin contre le sperme de son mari, ce qui provoque la stérilité. Il y a des règles qu'il ne faut pas enfreindre. Tous les couples stériles, bien sûr, ne sont pas concernés par cela. Mais l'on s'est rendu compte que c'était une des raisons dans la stérilité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si la femme va vers un autre homme, elle n'a pas ce problème-là. Ou si l'homme allait vers une autre femme, il n'y aurait pas le problème de stérilité. En fait, ils se sont neutralisés entre eux. Bien-aimés, si je dis que nous avons une responsabilité dans la santé, c'est parce que Dieu nous montre la voie à suivre, ce que nous devons respecter afin que nous soyons en bonne santé. Je continue. On a également constaté, là j'étais en Israël, on me l'a redit, que les femmes religieuses qui respectaient scrupuleusement cela, eh bien, on ne décelait quasiment pas de cancer de l'utérus. Dans la Bible, rien n'est dit pour rien. Les partenaires multiples, aujourd'hui, et je m'adresse en particulier aux jeunes et aux plus âgés parce qu'il n'y a plus de règles, regardez ce que dit Paul aux Corinthiens. Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des risques d'inconduite sexuelle, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. Un peu plus loin, il dit dans 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me permettrai rien d'avoir d'autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, il est pour le Seigneur comme le Seigneur pour le corps. » Dans le journal Science et Vie, numéro 1036 de janvier 2004. Donc, vous voyez, j'ai essayé de lire quelque chose de récent. Il est dit au sujet, entre autres, du cancer de l'utérus, encore une fois, que l'un des facteurs de risque est les partenaires multiples et une mauvaise hygiène. En parlant l'autre jour avec ma sœur qui est médecin, elle me disait, si tu savais le nombre de jeunes filles que nous avons aujourd'hui qui nous consultent et qui ont des maladies qu'elles ne devraient jamais avoir à leur âge. Des maladies qui ne sont rien que le résultat d'une inconduite sexuelle. Parents, aimez-vous vos enfants ? Protégez-les alors. Les protéger, c'est les enseigner. Les protéger, c'est également leur dire, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Tu n'y gagneras que quelque chose. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pratique sexuelle contre nature. Alors là, il est dit dans le Lévitique 18-23, tu n'auras de rapport sexuel avec aucune bête. Tu te rendrais impur avec elle. Une femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle, c'est une perversion. Écoutez bien maintenant, vous connaissez tous la syphilis ? Alors, c'est tiré du livre Histoire de la médecine. La syphilis, qui est une maladie connue, était à l'origine une maladie que seuls avaient les lamas, qui vivent en Amérique du Sud, dans les régions montagneuses. Les conquistadors sont arrivés à l'époque. Ça faisait longtemps qu'ils ont fait ce que Paul a dit, ne pas toucher de femmes. Apparemment, ils ont touché les lamas. Résultat, la syphilis que seul avait le lama est devenue une maladie qui touche notre société. C'est les conquistadors qui l'ont ramené en Europe. C'est intéressant, non? Sans que cela soit pleinement établi, donc je mets des réserves. Mais au niveau du sida, qui n'était qu'une maladie qu'avaient les singes, on a quand même soupçonné qu'il y ait eu des relations entre une catégorie de singes qu'on appelle le singe vert et l'homme. Et que c'est à partir de cette source-là que ça s'est répandu ensuite particulièrement au travers des milieux homosexuels et puis par la suite, de manière dramatique, par la transmission donc au niveau des transfusions sanguines et autres et autres. La Bible dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Frères et sœurs, une vie en bonne santé. Évidemment, aujourd'hui, nous regrettons tous ceux qui meurent du sida à cause d'une aiguille réutilisée, à cause d'une transfusion, à cause simplement d'un bébé que vous portez alors que vous êtes atteint. On regrette tout cela. Mais à l'origine, il y a eu des abominations. Puis-je continuer et terminer ? Un mode de vie malsain. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans l'Épître aux Galates. Galates chapitre 5. Permettez-moi de vous le lire. Lorsqu'il est parlé des... non pas du fruit de l'esprit... mais de la chair. Verset 20, 19 déjà. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous savons que le cancer de poumon, mais également de l'utérus, est lié au tabagisme. On le sait. On sait que l'alcool et les excès d'alcool entraînent toutes sortes de problèmes, entre autres artériels. Mais, frères et sœurs, si je vous parle peut-être de manière un peu radicale, c'est parce que souvent, le mardi soir ou à d'autres moments, j'ai des gens qui arrivent, « Frère, prie pour moi, le médecin m'a dit que je peux bientôt plus marcher. » Mais t'arrêtes pas de manger le triple de ce que tu dois. On fait des excès et ensuite vite une imposition des mains. C'est pas correct. Frères et sœurs, il faut que nous assumions notre responsabilité. Si nous faisons des excès, nous avons des conséquences à nos excès et c'est parfaitement biblique. Il faut donc qu'il y ait une réforme dans notre comportement. Mauvaise alimentation. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Et c'est grave. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Bien-aimés, certains meurent de sous-nutrition, mais en Europe, c'est de surnutrition. Permettez-moi de terminer par deux choses encourageantes. L'activité physique. Vous savez que Paul ne dit pas que c'est inutile. Paul dit à Timothée, c'est utile à peu de choses. Moi, certains m'ont dit, « Ah frère, Jésus ne faisait pas de jogging. » C'est vrai, il ne faisait pas de jogging, Jésus, mais il a fait Nazareth, Galilée à pied. Il a scié, est-ce que vous êtes déjà scié? Il a raboté. C'était physique. Aujourd'hui, je vais faire les cours, chérie. On descend dans le garage. Tout de suite dans le garage, on ouvre la porte, on s'installe dans la voiture. À 300 mètres au Super U. On rentre dans le Super U et là, on achète. Des curlis, des cacahuètes, des... Alors qu'étant il est bien rempli, on remet dans la voiture et on retourne jusque dans le garage. Puis ensuite, on sort de la voiture, on monte les escaliers et on se met dans le fauteuil devant la télévision. Et puis là, les curlis. Frères et sœurs, l'activité physique n'est pas anti-biblique. Tu pêches pas quand tu te déplaces un peu et tu fais quelque chose. L'autre jour, j'entendais même aux infos que l'activité physique augmentait la masse osseuse et réduisait vos risques d'ostéoporose. Il y a des règles. Frères et sœurs, apprenons, ça semble terre à terre, mais j'aimerais vous dire que c'est parfaitement biblique. Et je termine en disant le respect de notre corps en lui accordant du repos. C'est pas moi, c'est encore la Bible. Regardez ce que dit Dieu dans Deutéronome 5, mais on pourrait prendre énormément d'autres choses. Si je regarde Le nombre de fêtes qu'avaient les Juifs, c'est plus de 3 mois qu'ils passent en vacances ou en fête. Écoutez ce qu'il a dit. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Objectif, se reposer. On vient parfois nous demander la prière pour les malades, alors que vous menez des vies de fous. Parfois, plutôt que d'imposer les mains, j'ai envie de dire, va te reposer. Et en disant ça, je ne serai pas anti-biblique, je serai pleinement biblique. Prenons du temps. Vous savez tous que les heures avant minuit comptent double, non? Saviez-vous qu'une petite sieste est très bonne pour votre cœur? Je termine. Dieu veut que nous menions une vie qui permette que nous soyons en bonne santé. Alors éliminons tout ce qui n'est pas utile. Sachons-nous aussi respecter ce que dit la parole de Dieu. Commençons à nous laisser éduquer dans notre manière de vivre. Cela sera une bénédiction également de l'Éternel, car si l'on respecte sa parole, elle, fera son effet.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.